1, 2, 3, 4.
Crazy Afrobeat.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce grand direct pour votre rendez-vous de Ville Lausannoise du mardi soir. À mes côtés ce soir pour vous servir cette émission, Fabio, Daniel, Jean-Luc et Valérie, bonsoir à vous quatre.
Salut.
Une émission un petit peu spéciale ce soir puisque nous allons parler du festival Ciné Masala, toujours dans notre série sur l'Inde. Et on va parler du festival Dans la Rose des Vents et dans Cultiver Lausanne, Daniel. Dans le micro sera plus facile.
On parle du corps en Inde, il n'y a pas de code unique de lecture. Et toutes les représentations de ce corps, qu'elles soient scientifiques ou populaires, esthétiques ou philosophiques, restent soumises à des systèmes de pensée très diversifiés. Ce soir, le corps sera à l'honneur, comme le festival de films indiens Ciné Masala, et le corps étant, comme le dit si bien Daniel Fener, le corps à soigner, à transcender, voire à se transformer.
Voilà, voilà, vous en saurez plus tout à l'heure en suivant cette émission particulière. Ces 40 minutes qui seront consacrées au Festival Ciné Masala tout à l'heure à partir de 18h20. Et avant ceci, eh bien, on va débuter cette émission dans Vivre à Lausanne, Fabio, par notre traditionnelle pause syndicale. Et comme nous sommes le premier mardi du mois de novembre, eh bien voilà, ça tombe bien. Non ?
Oui, ça tombe bien. Oui, je me demandais où c'est que tu voulais en venir.
Non, c'est le premier mardi du mois et qu'on parle...
Ah oui, c'est juste, oui, oui, absolument.
Ouais, merci, voilà.
Aujourd'hui, on parle de la numérisation de l'économie qui fait sûrement frétiller toute une cohorte d'apprentis sorciers, mais qui pose des questions essentielles sur notre future vie. Les syndicats observent avec précaution et attention cette révolution industrielle puisqu'elle joue sur le remplacement des postes de travail par... l'intelligence artificielle.
Et voilà cette fameuse intelligence artificielle qu'on entend partout, 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 de plus en plus. Et puis, eh ben, on vous ouvre ce soir la boîte de Pandore dans cette pause syndicale. Le menu de ce soir, c'est la pause syndicale et la numérisation économique. Et puis, le festival Ciné Masala. Voilà le programme de ce grand direct à écouter sur radio.django.fm et en DAB grâce à La Fabrique. Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h. Bienvenue dans ce grand direct.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Et Fabio, quelques nouvelles avant d'entamer cette émission de Karine, notre marathonienne que nous recevions la semaine dernière, qui a couru le marathon de New York.
Oui, elle a donc couru le marathon. On a pu la suivre avec son petit, via son petit chip sur les téléphones portables. Et donc, elle est bien partie. Et j'avais reçu juste ça. Voilà, c'est elle qui cause parmi une cinquantaine de milliers de marathoniens et marathoniennes qui passent devant le téléphone de son mari.
Voilà, parce qu'il faut quand même vous donner le résultat puisque ça vaut la peine et on la félicite par les ondes de Radio Django. Karine donc a mis 4 heures, 38 minutes et 40 secondes pour parcourir les 42,3 kilomètres. Elle a la place 28 334 sur les 50 643 coureurs.
Génial.
Voilà, je crois que simplement ça se résume en un mot. Bravo.
Bravo.
Voilà. Merci beaucoup Fabio et bravo à Karine. Un sujet la semaine dernière avant le départ à retrouver sur notre site www.django.fm.
Radio Django, 18-19h.
Et dans notre rendez-vous syndical mensuel, nous allons parler aujourd'hui de la quatrième révolution industrielle, la numérisation de l'économie qui fait autant rêver les amateurs de science-fiction qu'elle inquiète les milieux syndicaux, Valérie.
Oui, effectivement, on connaît le e-banking déjà, le paiement en ligne, le self-scanning qui remplace les caissières dans les supermarchés ou les services internet de type Airbnb ou Uber. Mais justement, qu'est-ce que c'est Uber ?
plutôt sympa, hein, c'est novateur, c'est cool, c'est frais, c'est très pratique pour les clients, mais surtout pour Uber et ses actionnaires. Mais Uber n'étant rien sans ses chauffeurs, il faut qu'ils en recrutent un maximum. Et pour ça, ils utilisent un argument de malade. Travaillez chez Uber et devenez votre propre patron. Et là, tu dis, c'est génial, je vais être patron, je vais gérer mon temps, mon argent, je vais profiter de la vie. Et ça, ça fait rêver. Et jusque là, tout va bien. Sauf que le terme « être son propre patron » n'a pas du tout le même sens pour Uber que pour le commun des mortels. Pour Uber, tu es ton propre patron, mais tu dois quand même leur donner 10%. Non, pardon, 20%. Non, autant pour moi, ils ont encore augmenté. 25% de ton chiffre d'affaires. Mais attention, tu es ton propre patron. Et c'est aussi Uber qui décide des montants des courses. Un jour, ils ont décidé de baisser les prix des courses de 20%, mais d'augmenter leur part de 5%. Comme ça, gratuit. Donc en gros, tu payes ta voiture, tu payes tes charges, tu leur donnes 25%, tu n'as pas le droit de discuter les prix et en plus ils peuvent te désactiver n'importe quand. Et Uber doit arrêter avec son argument qui dit qu'il crée du travail, qu'il crée de l'emploi. Déjà, créer un emploi, c'est créer un cadre avec une garantie de rémunération, garantir la sécurité sociale. Ils sont juste en train de créer une armée d'endettés qui roule avec des grosses bagnoles. On est en train de perdre 100 ans de lutte sociale, là.
Voilà, voilà, c'est un extrait du sketch Le vrai visage d'Uber, signé Abdel Envray, un YouTuber qu'on vous recommande chaudement.
Et le phénomène de numérisation est en voie de toucher tous les secteurs de l'industrie et des services, avec des conséquences dont il est encore difficile d'évaluer l'ampleur. On va essayer de mieux comprendre tout ça grâce à notre invité du jour, Fabio.
Bonjour, Théon Fankhauser. Tu es secrétaire syndical du SEV, le syndicat des transports. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Radio Django. Peux-tu nous expliquer un peu mieux en quoi consiste la numérisation de l'économie avec des exemples concrets ?
Bon, je vais essayer, c'est évidemment pas facile, mais la digitalisation de l'économie n'est pas un phénomène nouveau. Elle est en cours depuis plusieurs décennies, mais un accord se dégage pour affirmer qu'elle atteint aujourd'hui un point d'inflexion ou de rupture. C'est le mariage entre le fameux big data et la robotisation, annonce désormais une nouvelle économie et partant un nouveau monde du travail. Un bon exemple est sans doute les immenses dépôts d'Amazon où le travailleur obéit aux ordres des machines pour effectuer son travail, ou alors les coursiers à vélo qui attendent des ordres arrivant sur leur téléphone portable et qui sont surveillés en permanence par GPS. Mais le consensus s'arrête là. Dans quelle mesure cette nouvelle économie digitale créera, détruira, déplacera-t-elle des emplois ? Quels seront les secteurs les plus touchés ? Quelles seront les nouvelles qualifications nécessaires ? Ces nouvelles qualifications permettront-elles de compenser les énormes déstructurations d'emplois annoncées ? Comment se fera la transition ? Aucune réponse claire n'est apportée à ces questions. De même, les effets globaux sur la qualité de l'emploi, les conditions de travail, les formes de travail, les inégalités sociales sont difficiles à évaluer précisément.
Alors... Pardon, excusez-moi.
Dans le secteur.
J'ai un peu perdu le film.
Très prise par votre propos, Christophe.
Oui, absolument. Donc, dans le secteur que tu connais bien, donc celui qui est celui des transports, comment ça se concrétise, cette révolution 4.0 ?
Nous constatons des nouveaux systèmes d'assistance partiellement automatisés aux véhicules complètement automatisés, respectivement, qui se conduisent tout seuls. Il y a des tests aujourd'hui qui sont effectués auprès de la Sudostbahn en Suisse alémanique.
À Fribourg aussi, je crois. Hein, dans
alors, c'est pas tout à fait la même chose. On parle de train à Fribourg, on parle de navette, mais j'y viendrai peut-être après. Donc là, on est véritablement sur des trains sans mécanicien. Ouais. Et puis ces trains, eh bien, dans 5 à 10 ans, pourraient être pilotés depuis en bureau, on va dire ça comme ça, puisque ce serait des régulateurs qui le feraient.
Christophe Fankhauser, vous pensez honnêtement que les passagers seront d'accord de monter dans un train sans passagers, j'espère qu'il y en aura toujours, sans chauffeur ?
Tout est là. C'est la grande question de l'acceptation. Et force est de constater aujourd'hui que cette numérisation et ces trains sans pilote existent déjà, puisque si on prend l'exemple de Lausanne, on a le M2 qui est un succès invraisemblable et qui est sans conducteur.
Alors, tu parlais justement lors de ces trains, tu voulais aller un peu plus loin dans les exemples ?
Oui, je voulais aussi un petit peu expliquer ce qu'on avait aussi constaté, quel est l'objectif des opérateurs, c'est les voyages porte à porte. En fait, ce qui intéresse beaucoup les CFF, par exemple, c'est le dernier kilomètre, c'est d'amener les gens jusqu'à la dernière gare ou leur dernier arrêt de bus, et ensuite arriver avec les fameuses navettes sans conducteur, les amener devant leur porte. Et ça, c'est un des objectifs, évidemment, de ces petites navettes, c'est de pouvoir faire le dernier kilomètre. On a aussi vu qu'il y a au CFF maintenant des robots nettoyeurs qui, soi-disant, vont enlever les tâches répétitives des salariés. Mais toute la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces salariés ?
Au Forum de Davos, on en parle parce que Radio Django est toujours au Forum de Davos tous les années.
Bien sûr. On va en avion privé. D'ailleurs.
Voilà. On a beaucoup parlé d'économie numérique et... Et à ce propos, on écoute un extrait de l'édito Écho de Nicolas Barré sur Europe 1, et c'était le 18 janvier 2017.
Alors, je m'empresse de dire que les participants à Davos insistent plus sur les opportunités et les progrès qu'apporte cette révolution, mais ce n'est pas un optimisme naïf et les entreprises ont une responsabilité pour éviter que la révolution numérique, en effet, ne produise des réfugiés numériques.
Cette révolution numérique, c'est notamment l'intelligence artificielle et tout ça.
L'intelligence artificielle, oui, qui fait des pas de géant. J'ai rencontré d'ailleurs un des gourous mondiaux qui s'appelle Joy Ito, qui est patron du MIT et qui dit que l'intelligence artificielle est un peu comme un enfant, si vous voulez. Elle peut être mal élevée ou bien élevée. Et en clair, il faut qu'elle reste dans son rôle d'outil au service de l'homme sans prétendre le remplacer. Et c'est important parce que l'intelligence artificielle est en train de tout envahir, d'où la crainte qu'elle remplace l'école blanche comme les robots ont pris la place des ouvriers.
Bon, on le voit, Christian, à Davos, il règne un optimisme quand même de bon aloi face à ces mutations. Est-ce que les progrès technologiques n'amèneront pas aussi plus de confort et de tranquillité dans le monde du travail ?
Ça, je ne sais pas, mais puisque vous êtes allé à Davos en avion, je peux juste vous dire une chose, c'est que votre pilote, il n'a pas fait grand-chose. Hein, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a que du pilote. C'est un pilote automatique, et d'ailleurs, ça pose un vrai problème, parce que les pilotes ne sont plus que formés pour pouvoir intervenir en cas d'urgence. Comme ils ne pilotent jamais, ils ne savent pas comment intervenir d'urgence. Ça, c'était pour la petite histoire.
Ils pilotent quand même pour le décollage et l'atterrissage.
Des fois.
Le décollage, en tout cas, je confirme.
Vous êtes pilote ?
Oui, effectivement.
Ben voilà. Mais je pense que c'est une discussion qu'on va avoir une autre fois, peut-être. Revenons sur la question que tu m'as posée tout à l'heure. On constate effectivement une polarisation accrue de la société de demain avec ce qu'on pourrait appeler la fameuse classe moyenne qui rétrécit. Qui c'est la classe moyenne ? Ça, je vous laisserai décider. Mais une forte augmentation des ménages et des travailleurs à bas revenus et une infime minorité de superstars dont les niveaux de richesse explosent littéralement.
Et donc, face à ces bouleversements qui paraissent inévitables, comment se positionnent les syndicats ?
Eh bien, il faut commencer peut-être par les choses les plus simples et partir d'un premier constat. C'est qu'on ne peut pas accepter des licenciements en raison de la digitalisation. Il faut un revenu décent, il faut une sécurité de l'emploi, il faut retrouver un sens du travail et un lien social. J'insiste souvent sur la question du lien social et du sens du travail, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent plus pourquoi ils font leur travail, quelle est leur mission. Et une chose évidemment essentielle, on nous promet évidemment des gains de productivité. Eh bien, pour nous, les gains de productivité doivent se traduire par une réduction du temps de travail, une augmentation du salaire ou un développement de l'emploi, une meilleure qualification professionnelle grâce à des cours, à des formations et du perfectionnement professionnel.
Donc, en gros, ce que j'entends, c'est il faut que la numérisation profite aux travailleurs et qu'elle ne fasse pas perdre du sens au travail et que ça reste un monde dans lequel il y a des échanges. Et comment est-ce que vous comptez mener ces futurs combats ? Vous avez des stratégies déjà ou comment vous intervenez ?
Alors des stratégies, ça serait peut-être un petit peu présomptueux de notre part, mais il y a une chose qu'il faut commencer de faire et que de temps en temps on oublie un peu, c'est il faut être très concret, écouter nos membres, relayer leurs revendications. Il ne faut pas être fataliste, il faut pas, et il faut refuser, comme je l'ai dit, les licenciements. Il faut exiger une redistribution des gains de productivité. Et puis, comme le dit le président de l'Union syndicale vaudoise et membre du SEV, Jean-Claude Cochard, sans travailleurs, il n'y a pas de syndicat, donc la lutte continue.
Merci pour ce mot de la fin.
Fabio, tu avais encore une question, peut-être ?
Non, je voulais demander à Christian s'il y a une lutte actuelle qui résume un peu ça, qui a quelque chose à se mettre sous la dent.
Alors, je vais parler que pour notre syndicat, le SEV.
Oui.
Évidemment, le SEV est devant un immense défi, c'est la renégociation de la convention collective CFF l'année prochaine et la numérisation, parce que les CFF sont des adorateurs de la digitalisation, va être un sujet central des prochaines négociations.
Voilà, on a un peu fait le tour de cette question. Merci beaucoup, Christian Fankhauser. Merci bien d'être venu ce soir nous en parler. Vous êtes secrétaire syndical du syndicat des transports, le SEV. Merci de nous avoir permis de mieux comprendre un peu cette révolution 4.0, comme on l'appelle. On peut retrouver cette séquence sur la numérisation du travail sur notre site, ainsi que toute une série de liens qui nous sont proposés par vous, Valérie et Fabio. Tout ça sur notre site www.django.fm.
La pause syndicale.
Et puis Valérie et Fabio, c'est pas fini, une fois n'est pas coutume. Ce mois-ci, il n'y a pas de brève syndicale, mais bien deux informations pour autant d'événements à venir.
Oui, alors tout d'abord, une soirée organisée conjointement par l'Union syndicale vaudoise et l'AEHMO, qui est l'Association pour l'étude de l'histoire du mouvement ouvrier. Autour de la révolution russe de 1917, puisque les 100 ans de la révolution. Donc,
et c'est carrément aujourd'hui que ça a explosé, il y a 100 ans.
C'est carrément aujourd'hui que ça a explosé, exactement. C'est une soirée dans laquelle nous aurons une conférence d'un historien, Éric Honnoble, le rôle du mouvement ouvrier dans la révolution russe. Et ce sera suivi d'une projection d'un film « La peste rouge », un film suisse de propagande anticommuniste qui n'a jamais été réellement montré depuis, qui a dormi toutes ces années dans les tiroirs de la Cinémathèque. Ce sera donc jeudi 16 novembre 2017 à 18h30.
Donc jeudi prochain.
Absolument, jeudi prochain.
Et le lendemain, l'Union syndicale vaudoise s'associe au collectif Autrement ça va, qui est composé de 4 lieux de débat lausannois. Il y a Alliance Sud Infodoc, Espace Dickens, la Maison de quartier Sougar et Pôle Sud, pour un événement, je viens de le dire, le lendemain, donc le vendredi 17 novembre. Alors, pour expliquer un tout petit peu, en 2016, ce collectif a proposé moult événements sur le thème des multinationales, faisant écho à l'initiative fédérale pour des multinationales responsables qui sera bientôt votée par le peuple suisse. Comme 2017 a été décrété par l'ONU une année du tourisme durable pour le développement, on a donc décidé d'explorer quelques formes alternatives au mode de tourisme proposé par le néolibéralisme hypermobile, qui touche de manière plus large au mode de vie, de migration, de déplacement pendulaire, pour les besoins du monde du travail, etc. Bien, ceci dit, le vendredi 17 novembre est prévue la projection de La conquête du temps libre, un film de 1992 d'Alex Mayenfisch et Doudou Denizard, qui font partie de l'association lausannoise de réalisation Climage. Ce documentaire nous explique la lutte des classes populaires et des syndicats pour l'obtention des premiers congés payés et de fait aussi les prémices un peu du tourisme. Donc voilà, le tour est joué, on a fait le tour. La projection est prévue à 20h30 ici à Pôle Sud et elle sera suivie par plusieurs éclairages sur l'évolution des habitudes dans les milieux des travailleurs, notamment la relation entre vacances et formation, le développement des bons vacances RECA et l'extension des voyages low cost. Et on y parlera aussi de tourisme solidaire et découverte du Dolce Far Niente.
Voilà, donc tout un programme qui nous faisait office de brève syndicale pour ce mardi 7 novembre. Merci beaucoup Valérie, merci Fabio. Les deux dates hein, qu'on retiendra les 16 et 17 novembre prochains. Donc c'est la semaine prochaine, jeudi et vendredi. Le mois prochain, le 5 décembre, mardi 5 décembre, dernière pause syndicale pour 2017. Est-ce qu'on connaît déjà le sujet, en tout cas une vague idée?
Oui, alors on y parlera de l'initiative Nobilag. Si cette initiative passait, ce serait probablement la fin pour toute une série de services publics dans le domaine des médias. Le milieu syndical est quant à lui très préoccupé par l'acceptation d'une telle initiative qui signerait l'arrêt de mort de centaines de postes de travail en Suisse.
Oui, on parle même effectivement de milliers de postes de travail mis sur la touche. On en parlera le mois prochain, donc le 5 décembre pour cette émission spéciale Nobilag. Et puis ce sera également l'objet en début d'année d'une série d'émissions sur toujours cette question de Nobilag. Et comme il était question de numérisation de l'économie et qu'il est fort probable qu'une cohorte d'apprentis sorciers inventeront des plans foireux et des projets dangereux. Voici une chanson de circonstance, La Java des bombes atomiques de Boris Vian, interprétée ici par Saint Severino.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans jamais avoir rien appris, c'était un vrai génie. Question de travaux pratiques, il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Le soir, quand il rentrait chez nous, il nous mettait en transe en nous racontant tout.
Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'a qu'un rayon d'action de 3,50 m. Y'a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement.
Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il avalait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant le repas, v'là tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça.
À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaie d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement.
Et puis il y va. T'es là, tonton ? Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut des excuses de ce que sa caille était aussi petite.
Excusez-moi.
Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant:
soyez sages.
Et quand la bombe a explosé de tous ses personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné, et devant les jurés, le voilà qui bafouille.
Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, quand mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir sauvé la France.
On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia.
Et le pays reconnaissant l'élu immédiat, chef du gouvernement.
Radio Django, La Rose des Vents.
Et voilà, on ouvre notre nouveau chapitre ce soir, puisque c'est notre troisième volet sur cette série consacrée à l'Inde. Pôle Sud accueille dans ses murs du 8 au 11 novembre, le festival du film indien Ciné Masala, consacré cette année à la perception et aux représentations du corps en Inde. Cultivé Lausanne et La Rose des Vents ont le plaisir de vous faire découvrir avec des membres du comité d'organisation du festival et une représentante même de l'IAL, l'Indian Association of Lausanne, cet événement l'Inde à corps perdu. Alors tout d'abord, et avant d'entrer dans le vif du sujet, Daniel, est-ce que vous pourriez brièvement nous rappeler ce qu'est le Ciné Masala que nous avions par ailleurs déjà reçu hein, pour sa quatrième édition?
C'est un festival de films pour découvrir le sous-continent indien autrement. Ce festival regroupe des chercheurs et chercheuses de l'Université de Lausanne, travaillant sur l'histoire, les religions et les langues de l'Asie du Sud, comprenant l'Inde, le Népal, le Sri Lanka et le Pakistan, entre autres. Leur singularité est d'avoir choisi le cinéma pour ouvrir leur domaine de recherche à un plus large public. Et c'est dans cette perspective que les projections, fictions et documentaires sont projetés sur le campus de l'UNIL et au cœur de la ville de Lausanne.
Mais alors, comment est-ce que ces films sont-ils choisis, Jean-Luc ?
Oui, alors, depuis 5 ans, c'est le thème du festival qui reste déterminant dans le choix des films. La richesse des projections repose sur la diversité des auteurs asiatiques ou d'ailleurs, qui abordent des sujets traditionnels comme des sujets plus contemporains et parfois déroutants. Comme l'Asie du Sud se caractérise par une grande variété de langues et de cultures, la richesse de cette démarche est de nourrir ce festival par un regard original et authentique sur une région du monde encore méconnue.
Ouais, depuis 5 ans, d'ailleurs, le Cinéma Sala propose de décrypter l'Asie du Sud selon des angles et des thématiques originales et variées. Ce soir, le corps est à l'honneur, le corps comme étant à soigner, transcender ou à transformer. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir 3 membres du comité d'organisation du Festival Cinéma Sala. Daniel Feller-Conus, Rosita Pastore et Nicolas Pozza. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à vous sur Radio Django. Nous avons également une autre invitée, Ruby Bakshi Kurdi. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire générale de l'association Indian Association of Lausanne. Tout d'abord, faisons peut-être un petit peu le pedigree de nos différents invités. Tout d'abord, vous, Daniel Feller-Conus, vous êtes titulaire d'un doctorat en langue et civilisation orientale. Vous êtes chargé de cours de sanskrit. On dit bien sanskrit, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Voilà, sanskrit. De sanskrit. C'est à l'Université de Lausanne. Vous êtes également secrétaire de l'association Cinéma Sala et vous participez depuis 2014 à l'organisation de ce festival. Rosina Pastore, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes, vous, assistante diplômée et doctorante en études indiennes dans la section de langue et civilisation slave et d'Asie du Sud à l'Université de Lausanne, la faculté des lettres. Vous avez rejoint le comité d'organisation de Cinéma Sala en 2016.
Oui, tout à fait, c'est correct.
Merci. Nicolas Pozza, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître d'enseignement et de recherche en langue et littérature hindi dans la section des langues et civilisations slaves et d'Asie du Sud à l'Université de Lausanne, toujours en faculté des lettres, elle n'a pas changé depuis 20 secondes. Vous êtes très impliqué dans l'organisation du Cinéma Sala, vous êtes aussi membre du comité de l'association La Route de Chai, qui soutient d'ailleurs le festival. Mm-hmm. Beau programme, belle brochette ce soir.
Oui.
En tout cas, on est avec une délégation de l'université, ça c'est incontestable. Bonsoir Ruby Bakshi Kurdi.
Bonsoir.
Vous n'êtes pas membre de ce petit comité qui est à ma gauche, mais vous êtes titulaire d'un diplôme post-grade en business et management. Ça fait beaucoup rire notre technicien Nico. Je ne sais pas du tout pourquoi. Vous enseignez dans une université privée en Suisse, vous êtes d'origine indienne et vous regardez votre regard sur les représentations du corps en Inde viendront nourrir nos échanges autour des films choisis pour cette 5e édition du Cinéma Sala. Commençons peut-être, qu'est-ce qui vous a conduit à consacrer une édition entière au corps, Nicolas Pozza ?
Donc, comme l'a dit Jean-Luc tout à l'heure, chaque année, le comité d'organisation choisit un thème fédérateur pour sélectionner nos films, nos fictions et documentaires. Mm-hmm. Puis depuis quelques années déjà, c'est un thème qui revenait par quelques films comme ça. Et il s'est encore développé l'année passée, parce que le thème de l'année passée, c'était l'Inde au féminin. Donc on a eu plusieurs documentaires et fictions qui tournaient autour de la place accordée aux femmes en Inde et donc aussi des violences qui sont liées du manque de parole qui leur est attribué. Et le corps était quelque chose de prégnant déjà dans l'édition de l'année passée. Et du coup, cette année, on s'est dit, on pourrait cette fois développer ce thème-là. Non seulement parce que il couvre de nombreux sujets, comme on le verra tout à l'heure pendant les interviews, et puis aussi parce que ça a quelque chose de très concret. Mmh. Et donc les films qu'on a choisis et documentaires, je pense, représentent bien ce côté concret des multiples facettes du corps indien.
Oui, mais alors pourquoi le corps perdu ? Pourquoi cette expression ?
Alors, si je peux me permettre d'y répondre, donc à corps perdu. Alors, bon, tout d'abord, on cherchait évidemment un titre un petit peu accrocheur pour notre édition de Cinéma Sala. Donc, l'idée du à corps perdu veut dire en fait à fond, avec enthousiasme. Alors, tout d'abord, c'était pour transmettre notre enthousiasme, à montrer ces films, à parler de l'Inde, qui est notre sujet à tous et à toutes. Là-dedans, il y a aussi l'idée qu'on va pousser le corps à bout, qu'on va l'utiliser à fond, comme par exemple on le fait dans le yoga, pour obtenir certaines un certain but. Et puis, finalement, le corps peut être aussi littéralement perdu, comme on va le voir dans le très beau film Between the Lines, qui parle des hijra, donc ces hommes qui souhaitent devenir des femmes et qui, en fait, se castrent volontairement pour devenir des femmes et qui perdent vraiment une partie de leur corps.
Mais Daniel, comment se représente-t-on le corps dans le monde hindou ?
Bon. Nicolas,
alors, en d'autres mots, comment le corps est-il pensé et décrit ?
Alors, peut-être un des éléments de base, parce que c'est tellement complexe, hein, mais on va essayer de faire simple. Un
oui,
des éléments de base, c'est la question donc du renaissance, hein, du retour cyclique dans ce monde, et ce but depuis de nombreux siècles de pouvoir se libérer de ce samsara, de ce cycle, de ce monde de transmigration. Et du coup, le corps est autant un obstacle qu'un moyen de libération pour arriver à ce but, que le moyen donc, pour arriver à ce but. Et de nombreux systèmes philosophiques, techniques ont été mis en place autour du début de notre ère, avant déjà même, notamment par les pratiques de l'ascèse et plein d'autres pratiques. Et il y a notamment un système, je ne vais pas être trop long, mais c'est un système qui est très important, je crois, pour comprendre et le yoga et l'ayurveda et tous les autres systèmes. C'est celui du Samkhya, qui énumère tous les éléments, les tattvas, du corps, du mental, des sens, etc. Donc il y a 25 éléments qui sont très précis et qui divisent le corps en éléments grossiers comme l'eau, le feu, etc. ou des éléments plus subtils. Et à la base, au départ de ça, il y a cette dichotomie entre le purusha, qui est l'élément qui est la conscience, l'élément non matériel, et la prakriti, qui est la nature primordiale, d'où évolue tout le reste. Et le but du Samkhya et ensuite du yoga originel, c'est d'arriver à comprendre cette distinction entre ces deux éléments à la base. Mm-hmm. Et c'est ce qui va développer toutes les techniques de yoga, d'ascèse, etc., et les différentes conceptions du corps.
Mais comment expliquer en fait ce champ de tension dont on parle beaucoup entre le corps comme obstacle et le corps délivrance ? C'est difficile en fait à saisir, je veux dire, quand on ne pratique pas le yoga. Est-ce que vous auriez une explication ? Daniel
Flipponus.
On peut ici tourner vers certains textes, en fait les textes de loi. Et c'est très intéressant à mon avis parce qu'il nous parle de ce qu'on appelle normalement les purushartas, c'est-à-dire les buts de la vie d'un homme, homme ou femme, hein, ici terme générique. Donc les purushartas sont d'abord au nombre de trois. Il y a dharma, la religion, il y a artha, ce qui est économie ou argent, on pourrait dire, et il y a kama. Kama, c'est le plaisir au sens large, la sexualité peut-être dans un sens plus étroit. Donc normalement, toute personne est censée satisfaire ces trois besoins fondamentaux au cours de sa vie, peut-être certains un peu plus que d'autres en fonction de notre caste, de notre position, de notre âge, etc. Et donc ça, c'est très intéressant à mon avis parce qu'on voit que kama est intégré au même titre que la religion, que l'argent. Donc pour qu'une personne soit pleinement, on pourrait dire, épanouie, il faut qu'elle s'occupe aussi des plaisirs. Et évidemment, par rapport à notre religion chrétienne, kama est plutôt, disons, nier ou refouler, on parle du péché originel. Dans l'optique hindoue, ce n'est pas du tout ça. Donc kama a sa place au même titre que la religion. Et donc, dans un certain sens, karma est valorisé. Hein, les plaisirs sont valorisés. Il faut leur faire une place dans la vie. Après, quand on tourne vers des religions plus ascétiques, eh bien là, au contraire, ces mêmes plaisirs deviennent un obstacle parce qu'il faut les refouler pour accéder à la délivrance. Alors parfois, le corps est utilisé dans cette démarche-là et souvent le corps qu'on va peut-être plus torturer, hein, on va faire de l'ascèse dans une optique de brûler les péchés. Hein, et donc tout ça est censé nous mener à la délivrance. Alors la délivrance de quoi, vous demanderez ? Eh bien justement la délivrance de ce cycle éternel des renaissances. Hein. Peut-être à nous, dans l'Occident, ça nous paraît amusant de nous imaginer renaître sous toutes sortes de formes diverses. Hein. On se dit, j'aimerais bien être un chat parce que les chats dorment tout le temps et c'est très agréable. Mais si on se place dans une perspective où on imagine que ça va se reproduire sans aucune fin, toujours et encore qu'on va renaître, qu'on va vieillir, qu'on va mourir, eh bien, on réalise en fait la pénibilité de la chose et c'est là qu'on va souhaiter en fait accéder à la délivrance. Alors, cette délivrance, pour différents courants religieux, elle prendra des formes diverses. Pour certains, comme les bouddhistes, ça sera l'extinction. Pour d'autres, ça sera une forme de béatitude et on va pouvoir y accéder par différentes formes de religiosité. Ça pourrait être la dévotion dans certains courants envers un Dieu suprême. Dans d'autres, c'est par certaines connaissances qu'on va obtenir la délivrance. Dans d'autres courants encore, c'est justement par l'ascèse, en brûlant tous les péchés, tout le karma, c'est-à-dire tout le poids des actions qu'on a commises qui nous alourdissent et qui nous retiennent à cette vie.
En quoi le yoga permet justement, par ces différentes postures, de passer aussi à cette délivrance, enfin, que ça permet fait, cette délivrance, cet exercice du yoga. Enfin, c'est pas pour...
Oui, tout à fait. Moi, je trouve que si on veut, par exemple, parler de l'origine du yoga, bon, c'est une question très, très complexe. En fait, c'est pas sûr, par exemple, que le yoga s'était originé 5000 années avant, mais il y a, par exemple, si on veut parler du texte qu'on connaisse le plus, comme le Yoga Sutra de Patanjali, les chercheurs ont démontré qu'il y a différentes traditions de yoga avant le Yoga Sutra qui ont été après codifiées dans ces Yoga Sutras. Et on peut bien sûr dire que le Yoga Sutra a été composé entre le 3e et 4e siècle de notre ère. Mais comme je vous ai dit, c'est très donc compliqué de dire où, quand il y a eu cette origine du yoga. Il faut aussi dire que quand on parle de yoga et aussi de cette tradition textuelle des Yoga Sutras, qui sont un peu le texte du yoga classique, dit comme ça, il faut aussi dire que les sutras sont d'abord des aphorismes. Donc, c'est très compliqué, sont très compliqués à interpréter. Et après des Yoga Sutras, s'est développée en fait toute une tradition des commentaires qui sont très importants parce qu'ils ont été composés par, dans les siècles, bon, jusqu'à notre ère.
Bon, ça fait 5000 ans qu'il
donc,
existe.
Oui, quand même. Oui et non.
Il y a toute une évolution.
C'est très compliqué.
Le corps dans le yoga traditionnel est donc considéré comme un instrument pour parvenir à la délivrance grâce à différentes postures et respirations. Écoutons à ce sujet donc un extrait du documentaire Yoga, l'art de vivre.
Ces exercices nous donnent une certaine ouverture et nous, un certain détachement des idées, des désirs que nous voudrions voir se réaliser à tout prix. Et cela nous rend plus libres, plus disponibles.
En quoi la tradition du yoga s'inscrit honore la langue, le mot et le son, Rosina?
Alors ça, c'est une question qui, c'est pas seulement par rapport au yoga, mais c'est par rapport à toute la tradition aussi textuelle et culturelle indienne en fait. La parole, c'est vraiment central, par exemple parce qu'on pense que les textes sacrés des hindous, les Védas, ont été révélés aux hommes. Donc la parole a vraiment une place centrale et l'instruction vient de maître à disciple en parlant. Après l'écriture, c'est vraiment une étape après la communication verbale. Et par rapport au yoga, par exemple, une formule, un mantra qui ont souvent dit c'est le Om, c'est vraiment une formule qui on peut dire met en connexion le microcosme avec le macrocosme parce que dans la syllabe de Om on pense qu'on a le résumé de toute l'évolution de l'univers, parce que dans la pensée hindoue traditionnelle, l'évolution de l'univers est associée à les lettres de l'alphabet.
Il y a 52 sons, semble-t-il.
Oui, oui, tout à fait. Donc, l'évolution de l'univers,
on utilise
tout à fait.
Dans le yoga.
C'est associé à les lettres de l'alphabet, mais quand même, on fait un résumé dans la syllabe de Om.
Et une dernière question concernant ces sons. Est-ce que vous pensez qu'un occidental peut s'approprier ce Om? Parce que ça reste quand même quelque chose d'intrinsèque, peut-être, à la pratique du yoga en Inde.
Alors, moi, je pense que ça dépend du point de vue duquel vous voyez le yoga. Parce que
Je vous en prie.
Oui, il faut aussi dire que le yoga, au début, c'était une voie pour se livrer, pour la libération. Mais en Occident, on le voit plutôt comme une discipline physique.
Justement.
Et puis, il y a aussi la question si vous l'associez à une forme de religiosité ou pas. Donc, c'est vraiment très compliqué comment vous l'utilisez ou pas. Il faut aussi dire que les mantras, parfois, ont des significations, parfois, ils n'ont pas. Donc, ça dépend de la perspective.
En parlant du yoga, il faut savoir aussi que rire fait partie des techniques de cette pratique pour améliorer sa santé. À ce sujet, on va encore écouter un extrait d'un documentaire d'Arte, Yoga Art de Vivre.
Et c'est donc ici qu'est né le maître des maîtres, Tirumalai Krishnamacharya. Un jour, je l'ai suivi et j'ai expérimenté une nouvelle fusion du corps et de l'esprit. Alors j'ai voulu savoir d'où venaient ces exercices et ces postures, appelées asana.
Si je me souviens bien, il donnait trois raisons d'étudier le yoga. La santé du corps, la santé de l'esprit, c'est-à-dire la pureté de la pensée, le courage et la persévérance.
Et on le disait à l'instant, hein, le rire fait partie intégrante du yoga. Voici cette fois-ci l'extrait du documentaire de Arte Yoga, Art de Vivre.
Nous faisons un film sur le yoga en Inde. Vous pratiquez le yoga du rire, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est un mélange de yoga, de gymnastique et de rire.
Et aussi de méditation.
Ruby, vous pratiquez cette technique en Suisse avec des personnes âgées. Le rire, source de bien-être, mais qu'apportent au juste ces exercices de yoga?
Je fais en Suisse avec les personnes plus âgées et même avec mes enfants. Parce que ça, c'est quelque chose de très, très bien pour le corps. Et ça aide beaucoup à guérir les problèmes mentaux comme la dépression, l'anxiété et la tension aussi. Parce que maintenant, presque tous les enfants, ils ont le problème de stress. Même ils ne comprennent pas c'est quoi le stress, mais ils disent « Maman, j'ai stress, j'ai mal à la tête ». Pour cette raison, c'est nécessaire. Yoga, elle aide beaucoup pour faire les choses qui sont bien, même pour le problème de respiration comme bronchite ou l'asthme, et aussi améliorer les fonctions de poumons.
Le yoga et les massages font partie des piliers de l'Ayurveda. On va écouter en fait un extrait du film Ayurveda, son 4.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Et ce soir, on se fait du bien sur Radio Django. On parle Ayurveda dans le cadre du festival Cinéma Sala. Jean-Luc.
Oui, alors c'était juste quand même pour dire que c'est un festival de films. Donc il y a des films, on parle beaucoup ce soir, mais il y aura un film à 18h au campus de l'UNIL, au foyer de la Grange d'Origny. Ayurveda, l'art de vivre à 18h.
Voilà, parfait. Daniel, on voulait redonner la parole à notre
Ruby. Alors effectivement, Ruby, voilà, comme on disait, le yoga et les massages font partie des piliers de l'Ayurveda. Quelle place occupe Ruby les massages dans la médecine ayurvédique?
L'Ayurveda est une connaissance de vie. C'est la connaissance de la vie. Les deux, yoga et Ayurveda, sont le moyen d'acquérir une meilleure santé. Dans la douceur de la force de la couleur au corps, et aussi, ça aide beaucoup pour diminuer les effets du vieillissement, de aging. Ça donne aussi une bonne vision, parce que maintenant, avec les technologies, tout le monde est avec les iPads, iPhones, tout le temps à cause de screen. Ça aide écrans. Beaucoup s'il fait l'exercice, bon exercice avec yoga. Et aussi, ça nourrit le corps, donne une fermeture aux membres et aussi l'avantage des habitudes de sommeil.
Finalement, on pourrait se demander aussi en quoi le massage des bébés est toute une coutume qui fait partie intégrante des soins quotidiens en Inde. Et quelle symbolique porte cet acte quand on parle du Chantala, Ruby?
En Inde, le massage des bébés est une coutume qui fait partie intégrante des soins quotidiens. Le massage offre aux enfants une communication et un dialogue avec ses parents et contribue à son équilibre général. Mais c'est avant tous les moyens de communiquer avec son bébé pour lui témoigner son amour, des gestures porteurs de messages qui aident le bébé et à construire non seulement the love with the baby.
L'amour avec le bébé.
Oui. C'est une bonne forme d'exercice pour les enfants. C'est bon pour la digestion et le contrôle de la formation de gaz. Il stimule la circulation de sanguine. Et aussi, ça développe la puissance de résistance. Et la dernière, c'est une bonne technique de relaxation pour les enfants.
Alors, si l'Ayurveda reste effectivement une technique très douce pour les enfants, elle joue un rôle fondamental donc, dans justement les excès de stress qu'on peut connaître en Occident. Manque de sommeil, alimentation, prise de médicaments, en sachant que l'Ayurveda répond aussi à tous ces dysfonctionnements en fait, du corps humain. Écoutons à ce sujet un extrait du documentaire d'Anand Pauline à découvrir au foyer de la Grange de Dorigny demain soir et l'Ayurveda pour soigner une société malade de son stress.
If you have a bicycle, you want a car. If you have a car, you want a jet. And if you have a jet, you want to be younger. So there is no end to stress factors. In Ayurveda, from the beginning, they have said that the first factors that can create a disease are related with the human intelligence. They call it in Ayurveda prajna, and they call it prajna prata. The mistake of the human intelligence is going to be the deeper factor for the creation of the disease. How did they know 2,000 years ago that we are going to come at a point at the year 2000 that stress is going to be such a factor in our life.
Voilà, le stress, hein, c'est un facteur passablement délicat, mais qui est, on l'apprend, traité par l'Ayurveda, Daniel.
Et on pourrait se demander, Ruby, si l'Ayurveda serait une médecine plus préventive que curative.
Ayurveda, c'est préventif, parce que si on déjà sait c'est quoi le the things that need to be done in advance, then we can always cure the problems for the future.
Ouais, effectivement, quand on prévient, on le prévient plutôt que de devoir guérir. Hein. On prévoit les choses à l'avance au lieu de devoir les soigner après coup.
Pour oui, Nicolas, on vous écoute. Rajouter un élément.
Un petit complément. Absolument. C'est vrai, ça se veut préventif et puis c'est en quelque sorte de maintenir l'équilibre des trois doshas, hein, le vent, le flegme et la bile. Donc tant qu'il y a cet équilibre, le corps est en santé. Mais très souvent, que ce soit par le stress ou d'autres choses, le déséquilibre se crée et du coup ça peut tout à fait être curatif aussi. On voit dans le documentaire qu'on va projeter demain soir, en effet, où les médecins soignent tout type de maladie, que ce soit de la schizophrénie ou cancer, enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils prétendent, mais donc, il y a cette dimension curative très importante aussi, quoi.
Et c'est pourquoi, en fait, Kiran Vyas, un acteur déterminant dans le développement de l'Ayurveda en Europe, fondateur des centres Topovan, ce sont des centres de yoga et d'Ayurveda, nous explique que, finalement, l'Ayurveda, c'est plus...
Ayurveda, pour moi, c'est une pédagogie de la santé qu'une science médicale. Quoique en Inde, l'Ayurveda est une médecine. Puis très souvent, on prend la partie philosophique de l'Ayurveda ou on prend le côté art ou le côté science de l'Ayurveda ici en Occident. Mais tout d'abord, pour moi, c'est une pédagogie, c'est une façon d'éduquer l'être humain dans sa totalité pour aller vers, comme dit l'Ayurveda, vers le bonheur, qui est le contraire de malheur et maladie, vers l'épanouissement de l'être.
Radio Django, la rose des vents.
Mais jusqu'où cette recherche du bonheur portée par l'Ayurveda permet de disposer de ce corps et de se l'approprier ? À l'origine de cette réflexion, les mots d'une jeune étudiante de Kolkata qui accepta de répondre aux questions d'une journaliste. Dès l'enfance, on pourrait nous faire comprendre que nous sommes un poids pour la société. On nous apprend à avoir honte de notre corps, à nous cacher.
Oui, et pourtant, c'est vrai qu'au niveau féminin, il y a des ornements incroyables, que ce soit le sari, des beauty pearls, la danse, l'Inde. Enfin, c'est une terre de contraste qui invite à la féminité. Et le corps ne cesse d'être mis en valeur, mais s'approprier ce corps quand on est une femme en Inde semble parfois difficile. Alors, c'est vrai que là, il y a un film qui s'appelle Between the Lines, hein, qui passera samedi soir, qui est quand même un film à... vendredi soir, là, grosse erreur, merci Nicolas. Vendredi soir à Jean-Jacques Mercier, donc Pôle Sud, Jean-Jacques Mercier, ouverture des portes à 19h30, le film sera à 20h. Et Between the Lines, tu peux nous parler un peu de ce film qui est surprenant, c'est toi, Rosina.
Rosina Pastore.
Oui, alors il faut dire tout d'abord qui sont les hijra. Et les hijra, bon, on peut dire qu'ils sont des transgenres. Ils sont nés en tant que hommes ou parfois hermaphrodites. Et ils sont hijra parce qu'ils adoptent des vêtements et un comportement propre des femmes. Ils font partie d'une communauté de hijra. Et en fait, en particulier, la relation dans la communauté entre la chef et les disciples est très importante. Les gens qui font partie de cette communauté d'Hijra sortent de leur propre caste ou quand même communauté sociale pour entrer dans celle-là des Hijra. Et elles sont dévouées à la grandesse. Même elles ne sont pas conformes au code de comportement des femmes indiennes. Parce que, pour exemple, ils ont un comportement plutôt provocatif et vulgaire, qui n'est pas le comportement qui ont traditionnellement un aspect bio-femme en Inde. Et par rapport à leur rôle dans la société, en particulier par rapport à l'hindouisme, elles participent aux cérémonies des mariages ou pour la naissance, les célébrations pour la naissance des fils. Parce que ils croient qu'ils ont un pouvoir pour donner des bénédictions, des souhaits, des bons souhaits pour les filles. C'est aussi pour lorsqu'il y a un mariage, ils souhaitent la fertilité à la couple parce que c'est très important la question de la procréation, comment on peut dire, de la continuation de la famille. Et puis, bon, c'est normal qu'ils sont aussi le côté un peu, bon, on peut dire pas mauvais, mais sont aussi, les gens sont aussi effrayés par l'heure parce qu'ils ont aussi le pouvoir de maudire. Ça, c'est la question. On ne sait pas si ce pouvoir de maudire, peut-être ça vient de ce côté ascétique dû à la castration. Et bien sûr, les hijra, ils gagnent de l'argent et des autres dons pour leur participation à ces cérémonies.
Oui, alors ce qui est aussi extraordinaire, c'est que c'est... Bon, il faut parler un petit peu du film, comment il a été fait, parce que ce film, c'est quand même très intéressant, parce qu'il était... il est vu à travers la... les yeux d'une femme qui est photographe et qui a aussi envie d'écrire l'histoire des Israéliens. Est-ce que tu peux décrire ce film ? Parce que je trouve que la forme aussi est vraiment étonnante.
En effet, c'est assez, ça pose la question de savoir si c'est une fiction documentaire, donc ça se veut un documentaire, mais c'est vrai qu'à la base, c'est donc un réalisateur allemand, Thomas Wartmann, qui sera là vendredi soir pour répondre aux questions du public après la projection du film. Et donc, c'est ce réalisateur allemand qui a monté ce film, mais on suit une journaliste indienne de New Delhi, Anita, photographe, et qui a toujours été fascinée par ce monde des hijras. Elle raconte à un moment donné qu'en face de chez elle, quand elle était enfant, il y avait justement une maison où habitaient ces hijras. Et il y a toujours cette fascination, comme l'a montré Rosina, crainte, fascination, attrait, distance, tout ça. Et donc, elle a envie de suivre, elle va à Mumbai, et elle a envie de suivre quelques-unes de ces hijras.
Oui, elle pose aussi des questions très directes.
Très directes.
Parce que vraiment, on parle vraiment de sexualité, on parle d'envie des hommes, en fait, des relations que les hommes veulent entretenir avec les hijras, ce qui est quand même quelque chose de surprenant. Parce que c'est vrai, on casse les tabous. Et là, elle a osé poser ces questions. Et bon, il faudra qu'on pose cette question aussi. Comment il a fait le réalisateur pour construire ça ? Parce que c'est très, très prenant, quoi, comme film à ce niveau-là.
Ouais, autant les questions en effet sont très directes, autant les réponses sont très brutes. Hein, il n'y a pas de pincettes. Et justement, les deux, trois personnages principaux, hijras principaux ou principales qu'on suit, sont fascinantes par leur façon de commenter, d'expliquer leur situation. Et c'est vraiment un reportage qu'il faut voir et qui nous montre les choses directement, comme tu le disais, mais sans voyeurisme.
Mais qu'est-ce que ce film, en fait, traduit des représentations du corps en Inde, en sachant que si les femmes, les transgenres, pardon, peuvent s'assumer, les femmes, malheureusement, en fait, ont encore beaucoup de chemin à faire dans cette voie. Peut-être qu'on pourrait aussi poser la question à Ruby.
Est-ce qu'on peut répéter la question, peut-être, Daniel, en deux mots, la question.
Ce serait intéressant de comprendre qu'est-ce que ce film dit sur les représentations du corps en Inde, en sachant que quand on est transgenre, on peut en fait s'affranchir de certains codes et disposer de son corps, alors que quand on est femme, c'est beaucoup plus compliqué. Qui aimerait répondre à cette question ?
Nicolas Potier.
Allez, je me lance.
Nicolas.
Merci, au moins téméraire. En deux mots, brièvement.
En deux mots. Justement, de nouveau, ce documentaire est fabuleux parce qu'il montre tout le paradoxe entre ces femmes hijra qui ont une liberté d'expression et d'action que n'ont pas les femmes en général, mais qui se retrouvent en même temps exclues de la société. Et les femmes qui sont bien intégrées dans la société, mais qui ont plein de limites que leur impose cette société avant tout patriarcale, etc.
Alors, ça sera Between the Lines, hein, vendredi soir à Pôle Sud, à 20h. Ne manquez pas d'y venir. Et quand même, donné qu'il y a encore un film le samedi, c'est une comédie un peu, donc on va moins en parler, disons, on va moins intellectualiser autour de ce film. T'as envie d'en dire quelque chose ? Alors, disons quelque chose.
Et pourtant, Daniel, à tort, parce qu'elle aborde justement un des aspects du corps qu'on n'a pas encore traité, c'est-à-dire la digestion.
Ah, ben voilà, ça manquait, effectivement.
Et voilà,
et la constipation.
Oui.
Très bien, voilà.
Comme ça, il s'appelle Picou, le film, il sera à 20h. Donc voilà, comme n'oublie pas de venir. Et il y aura à manger, il y aura un tas de choses à ce festival. On s'amuse beaucoup à ce festival pendant 4 jours.
Et puis juste du mercredi au vendredi, à chaque fois un intervenant après le film, que ce soit sur le yoga, sur la Ayurveda ou sur les hijras.
Voilà qui est donné pour le cadre principal de ce festival Cinéma Sala qui commence dans quelques jours. Merci beaucoup à nos intervenants ce soir, aux membres du comité d'organisation de ce festival Cinéma Sala, Daniel Feller-Conus, Rosita Pastor et Nicolas Pozza. Merci beaucoup d'être venus ce soir.
Merci à vous.
Et puis également notre secrétaire général de l'Indian Association of Lausanne, Ruby Bakshi Kurdi. Merci.
Merci beaucoup.
Et puis voilà, toutes les représentations du corps, qu'elles soient scientifiques, populaires, esthétiques ou même philosophique, reste soumise à des systèmes de pensée très diversifiés. Il n'y a pas de code unique de lecture, hein, Daniel.
Alors oui, effectivement, si l'Inde a contribué de façon extraordinaire à notre connaissance du corps, pour reprendre les mots de notre invité Daniel Feller, ces connaissances sont en devenir, comme le précise le docteur de la clinique Agastier dans le film Ayurveda, un film à découvrir dans le cadre du festival Cinéma Sala. Notre savoir actuel de la vie est grand comme une poignée de terre. Notre savoir inconnu est grand comme la terre entière.
Voilà, du 8 au 10 novembre, découvrez l'Inde à corps perdu à Pôle Sud et à l'Université de Lausanne. Les lieux et les horaires de projection sont à retrouver sur le site avec le programme, le site du festival www.cinemasala.ch. Merci beaucoup Jean-Luc et merci à Daniel. Une petite variante, un tapis de fin indien pour le thème de notre émission presque spéciale. Le grand direct s'est terminé donc pour ce mardi. Nous avons parlé de la pause syndicale et la numérisation économique qui pose certains problèmes, si on l'a bien compris. Et puis, à l'instant, pendant ces deux tiers d'émission, ces 40 dernières minutes, nous avons parlé du festival Cinéma Sala qui débute la semaine prochaine, le 8 novembre. Tous les sujets sont à retrouver en podcast sur notre site www.django.fm. La semaine prochaine, place à une galerie d'art dans Cultiver Lausanne. Nous irons à la découverte de la Placette. Et puis, suite de cette série sur l'Inde, ce sera un portrait de notre invité de ce soir, Ruby. Un portrait complet lui sera consacré la semaine prochaine. Le programme, elle sourit, elle se réjouit beaucoup à voir. Le programme est à suivre sur notre site et sur Facebook, Radio Django. Rendez-vous mardi prochain à partir de 18h pour un nouveau grand direct à écouter sur radio.django.fm et sur Radio La Fabrique. Merci à Nico, à la technique, à toute l'équipe qui a œuvré pour cette émission. Je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute de vos programmes. Il est 19h.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.